Chapitre 58. 3 à la une. Dimanche, 20 août 2000, 1h18, camp de la presqu'île sauvage, île de Mornesay. Armand dormait d'un sommeil nerveux, agité. Il rêvait. Il errait dans le dédale de parking souterrain d'un centre commercial. Il avait suivi une fille en sortant du cinéma. La fille avait disparu comme par magie. Il était perdu, il paniquait. Tout était sombre. Les issues semblaient se dérober devant lui. Il marchait dans des flaques. De l'eau suintait du plafond. Une goutte plus grosse qu'une autre lui tomba sur la joue. Par réflexe, il chercha à l'essuyer. Il se frotta le bas de l'œil. Il bougea un peu dans son lit, puis replongea dans un demi-sommeil. La petite pièce de monnaie roula sur son duvet et tomba sur le parquet. Elle tourna un peu sur elle-même avant de s'arrêter. Cette fois-ci, Armand ouvrit l'œil. Le léger tintement de la pièce l'étonna. Comment cette pièce pouvait-elle avoir atterri dans son lit ? Toujours à moitié endormi, Armand attrapa ses lunettes sur sa table de nuit et se pencha pour regarder cette pièce tomber du ciel. Ses yeux s'arrêtèrent stupéfaits. Dans l'obscurité de la tente, il distinguait un couteau planté dans le parquet, à moins d'un mètre de son traversin. Les derniers brouillards de sommeil se dissipèrent de l'esprit de l'adolescent. Un couteau ? Planté dans le noir, à la hauteur de son visage ? Qui avait pu oser ? Qu'est-ce que cela signifiait ? Une menace ? Une menace de mort pendant qu'il dormait ? Il se pencha un peu. Plus étonné encore, il reconnut le bois légèrement usé du manche au-dessus de la garde. Un opinel. Celui que Maddy avait confié à Colin. Bordel ! En un bond, il jaillit de son duvet et se pencha vers le lit de Colin. Il posa ses mains sur le matelas. Personne. Sans davantage se poser de questions, il bondit à nouveau, fila dans le dortoir des filles et réveilla Maddy en la secouant et chuchotant. « Mayday ! Mayday, Maddy ! Colin n'est plus dans son lit ! Et j'ai retrouvé ça planté devant le mien !» Il promena son opinel devant le nez de l'adolescente à peine réveillée. « À ton avis, ça veut dire quoi ?»«
Qu'il t'a raté !»
fit Maddy en bâillant.
« De peu. Mais il t'a raté quand même. Fous le camp maintenant !»«
Quoi ?» protesta Armand. « Mais Colin est... Dégage ! Le temps que j'enfile un truc. Le message de Colin est clair. Il est encore parti se foutre dans la merde, mais il veut qu'on le suive, à distance raisonnable. »
« C'est aussi ce que je pensais !»
exulta Armand sans se lever du lit, observant Maddy toujours couché, comme s'il hésitait à tirer sur les draps pour gagner du temps. Armand retourna dans les secondes qui suivirent dans le dortoir des garçons. Maddy s'habilla à tâtons, puis le rejoignit. Armand allait ouvrir la toile de tente lorsque Maddy le retint.
« Fais gaffe, c'est sûrement plein de flics dans la cour !»
Ils guettèrent à leur tour le passage du veilleur et foncèrent dans la nuit derrière son dos. Une fois parvenus sur le chemin de ferme, ils se retrouvèrent dans l'obscurité presque totale.
« Je suppose que t'as pris une lampe de poche ?»
demanda Armand à Maddy.
« Et toi, Indiana Jones, t'y as pensé ?»« J'ai la lueur de mon téléphone portable. On va pas aller loin. Je sais pas marcher en braille, moi. »« On pousse jusqu'à la route, » décréta Armand. « Au carrefour, c'est éclairé. Et après, on avisera. »
Quelques minutes plus tard, il parvint au croisement. Ils avançaient plus rapidement au fur et à mesure qu'ils s'approchaient du réverbère. Ils s'arrêtèrent quelques instants, observant l'affiche de Lilien. Le ruban de crépon rouge posé à la hâte par Colin n'avait pas tenu en équilibre. Il était tombé et volait par terre au gré du vent. Les deux adolescents ne le remarquèrent pas. Ils se concentraient sur la une de Lilien. Il y a 10 ans, le drame des sanguinaires. 3 ouvriers y laissent la vie, 3 responsables disparus depuis.
« 3 disparus, mon cul !» commenta Maddy. Valerino et le père de Colin ont plutôt l'air de bien se porter. Le ressuscité et les 2 larrons,
commenta Armand.
Les 2 quoi? Les 2 larrons, les 2 voyous si tu préfères. Mais qui est le 3e? Une bagnole, cria Maddy.
Armand allait faire un geste pour se cacher, mais l'adolescente resta à découvert. Elle observait la voiture qui venait à leur rencontre, dans la ligne droite de la route de l'abbaye. Les 2 phares jaunes grossissaient. Soudain, Maddy s'avança encore et se planta au milieu de la route.
« T'es folle !»
hurla Armand.
« Regarde !» cria à son tour Maddy. « C'est une bagnole du journal de Lille !»
En effet, Armand parvint à distinguer à la lueur du réverbère que la petite 106 Peugeot qui s'approchait était peinte aux couleurs de Lilien, blanche et rouge, avec le logo du coquillage se transformant en point d'interrogation.
« Et alors ?»
fit Armand.
« Faut l'arrêter !»
On n'aura pas beaucoup d'autres occasions d'avoir de l'aide à 1h du matin. »
L'adolescente se mit à agiter les bras le plus haut et le plus vite possible pour que la voiture la repère au milieu de la route. La 106 finit par ralentir et pila une dizaine de mètres devant Maddy. Un homme grisonnant jaillit de la 106 et braqua un pistolet sur la jeune fille. Armand resta tapi dans l'ombre. Maddy leva les mains et lança sans se démonter.
« Calmos, Starsky, c'est plus de ton âge. »«
Qu'est-ce que tu fous au milieu de la route à cette heure-ci ? »
demanda Delpech sans lâcher son arme. Une fille blonde boudinée dans une robe de soirée pourpre ultra moulante sortit à son tour de la 106 de Lilien.
« Fais pas l'idiot, Didier !» fit Clara. « Tu vois bien que c'est une gamine !»
Maddy siffla.
« Dis donc, Hutch, t'es mieux roulé qu'à la télé ?»«
Manque pas de respect à la dame, petite insolente !» répliqua le journaliste.
« Mademoiselle !» précisa Clara. « Et c'est pas à moi qu'elle manque de respect, c'est à ta caisse de clown !»
Delpech baissa son arme et soupira.
« Bon, allez, on est pressé. Toi, le petit à lunettes, sors de ton trou et viens faire la conversation avec nous !»
Armand sortit de l'ombre, penaud. Delpech continua de poser ses questions.
« Vous faites partie du camp, je suppose. Vu les circonstances, je suppose que vos animateurs n'organisent pas un grand jeu de piste nocturne.
Et vous ?»
répondit du tac au tac Armand.
« Vous faites un reportage sur les loups-garous ? J'ai pourtant l'impression que votre une pour demain est déjà bouclée. »
Delpech réfléchissait. Que pouvaient fabriquer ces deux gamins seuls à 200 mètres du camp en pleine nuit ? Avec les éléments qu'il avait en sa possession, le déclic vint presque immédiatement.
« Vous seriez pas les deux ados qui sont retrouvés ensevelis avec Colin Rémy sous la grange de la Cricomauve ?»«
On est bien informés à ce que je vois, » répliqua Maddy.
« Pas autant que je voudrais. Donc vous êtes les copains de Colin. Vous le cherchez ou vous le couvrez ?»
« On a besoin de le voir, les enfants. On voudrait le rencontrer pour lui faire part d'un certain nombre d'informations. Des informations qui nous font penser qu'il court un grand danger. »
Armand allait répondre lorsque Maddy hurla.
« Temps mort !»
Clara les regarda étonnée.
« Elle a dit « temps mort, ma copine !» reprit Armand. « On a besoin de réfléchir. Derrick, tu peux ranger ton flingue et aller garer ta tire. Elle est restée au milieu du carrefour. »
La 106 était effectivement stationnée, portière ouverte et phare allumé, sur la route de l'abbaye. Delpech n'apprécia pas trop l'allusion à l'inspecteur Derrick, ni le regard goguenard de Clara, mais elle a tout de même garé sa 106 au bord du talus. Les deux adolescents se rapprochèrent pour discuter entre eux.
« Ok, » fit Armand après un court moment. « On a décidé de vous faire confiance. On a toujours eu un faible pour la presse d'investigation, même si ma copine est un peu jalouse des blondes. C'est son côté méditerranéen. »
Il ne laissa pas le temps à Maddy de protester et continua.
« On vous fait confiance, donc. On cherche Colin, nous aussi. Il n'est plus au camp. Il a disparu en pleine nuit, mais on ne sait pas où. À vous, racontez-nous ce que vous savez. »
Delpech, les mains dans les poches, avait écouté avec étonnement le numéro d'Armand.
« T'es dur en affaire, petit. Tu veux savoir quoi exactement ?»«
Tout. » »«
Ça va prendre du temps. Faut que tu précises. »
Armand réfléchissait. Il avait un peu de mal car la blonde avec sa robe moulante et son air de vamp le troublait. Il ne s'ennuyait pas, le journaliste. Maddy prit la parole.
« Pour commencer, tes trois portraits là sur l'affiche de ta feuille de chou. »
Elle désigna l'affiche accrochée au réverbère.
« Oui ?» fit Delpech. « Il y en a deux, » continua Maddy. « On les connaît. Il y a Jean-Louis Valerino, l'homme à la cervelle de gélatine, et Jean-Rémy, le mort-vivant. Mais le troisième, c'est qui ?»
Delpech regarda Clara, hésitant. La secrétaire lui fit signe de parler. Delpech commença.
« Le troisième homme, c'est Maxime Prieur, le numéro 2 de l'association Saint-Antoine, le grand ami d'enfance de Jean-Rémy, avant l'accident des sanguinaires, et le grand ami de Jean-Louis Valerino, ensuite. »«
Il est mort, disparu lui aussi ?»
demanda Armand. Delpech marqua un temps de silence.
« Je crois pas. Il doit rôder encore dans le coin. Mais ça fait des années que je l'ai pas vu. Il habite sur le continent aux dernières nouvelles. » Il avait ouvert il y a quelque temps une boîte de graphisme. C'est un type assez doué avec un ordinateur, des dessins, des photos, des croquis. C'était son rôle dans l'association Saint-Antoine. Le dessin assisté par ordinateur, les simulations pour reconstituer les sites en ruine. Tenez, à l'époque, c'est même lui qui m'avait dessiné le logo du journal Lilien, ce coquillage qui se transforme en point d'interrogation à partir d'une technique de morphing.
Il tourna son regard vers sa 106 blanche et rouge. Le logo était repris sur les deux portières avant.
« Ok, super joli !» fit Maddy. Il était doué. Mais s'il traînait avec Valerino et Jean-Rémy, il devait s'intéresser à autre chose qu'au dessin par ordinateur. C'était leur complice ?
C'est ce que vous sous-entendez sur cette affiche. Ils étaient complices, tous les trois ?
Non !
se défendit Delpech.
Ils ont trempé tous les trois dans la même affaire. Mais rien ne prouve qu'ils aient été complices. Jean-Rémy, par exemple, n'était pas...
« Allez, soyez pas focus !» coupa Armand. « C'est évident. C'est une association de malfaiteurs. C'est ce que vous suggérez avec ces trois photos. Sur les côtés, les deux complices, Jean-Louis Valerino et Maxime Prieur, et au centre, le cerveau, Jean-Rémy. »
Ils regardèrent tous les quatre l'affiche. Delpech sembla brusquement décontenancé. Soudain, Maddy se pencha sur les graviers sombres et hurla de joie.
« Je sais où est Colin! Regardez !»
Elle tenait dans la main un morceau de crépon rouge.
« Il a joué les petits poussets !» expliqua Maddy. « On a juste à suivre la piste !»
Armand jubilait. Pourtant, Delpech ne s'intéressait pas à ce morceau de crépon. Il demeurait étrangement perplexe, concentré devant l'affiche de son journal.
« Qu'est-ce que tu viens de dire là, petit ? Avant le coup du ruban rouge, à propos de l'affiche.
« Moi ?»
fit Armand.
« Oui.
Qu'en plaçant sur cette affiche la photo de Jean-Rémy au centre, vous suggérez au lecteur qu'il est le cerveau et que Prieur et Valerino sont ses complices. » Delpech, étonné, répondit lentement.
« Tu te trompes, petit. Sur cette affiche, la photo de Jean-Rémy n'est pas au centre. Elle est à droite. C'est celle de Maxime Prieur qui est au centre. »